Père, célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon, il nous a comblés de bénédictions. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le, il nous donne la vie, et dans son livre nos noms sont écrits. Célébrons-le, il nous a introduits dans sa famille qui nous a accueillis. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le en exerçant nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons pour louer, adorer, célébrer. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons pour louer, adorer. Nous venons pour louer, adorer. Nous venons pour louer, adorer.
Oui Seigneur, bienvenue parmi nous. Nous t'accueillons, nous voulons te louer. Gloire à toi. Est-ce qu'on peut taper dans les mains?
Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir remet les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre, car nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brillent. Sont restaurés. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient.
force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu. Oui, Seigneur, nous voulons t'accueillir au milieu de nous. Tu es glorieux. Assis sur ton trône, nous voulons te célébrer.
À la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé, grand et puissant, grand et puissant, notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais, grand et puissant, grand et puissant, notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé, grand et puissant, grand et puissant, notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant, notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais.
Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus, alléluia, 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 sois élevé.
Seigneur, pour ta présence. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Dans ton amour, tu nous conduis. Dans ton amour, tu nous protèges. Tu nous gardes. Et tu nous guides toujours vers ta lumière. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul es mon Dieu.
Christ est ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
Toi seul,
toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est dans toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est dans toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est dans toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est dans toi. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, abrite-moi. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me même si mes océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Mère, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là.
Je voudrais soumettre une pensée à l'Église, à votre discernement, et pour ceux qui sont peut-être surpris, mais sachez que nous sommes une Église, comme d'autres d'ailleurs, qui pensons que Dieu parle toujours, que ce soit à travers la Bible ou par des révélations qu'il peut accorder aux uns ou aux autres. Le Seigneur voudrait dire à plusieurs d'entre nous, il y a des bénédictions que vous ne recevez pas. Et vous vous interrogez, certains boudent le Seigneur, d'autres se mettent en colère, d'autres sont désespérés, d'autres attendent. Le Seigneur veut dire à certains d'entre nous qu'il y a des bénédictions qui ne peuvent pas arriver parce qu'il y a quelque chose au fond de vous, au fond de nous, qui est verrouillé. Et le Seigneur ne force pas du tout les portes, il nous respecte profondément. Donc il veut nous rendre attentifs ce matin au fait que nous sommes verrouillés parfois à certains endroits de notre vie. Et ces verrouillages, ces verrous, nous pouvons les connaître parce que soit le Seigneur assez souvent nous a parlé à ce sujet d'une façon ou d'une autre, soit parce que d'autres nous disent régulièrement « considère tel ou tel point de ta vie », soit parce que tout simplement nous savons en nous-mêmes qu'il y a un endroit où quelque part nous résistons. Ce n'est pas une résistance liée à une forme de rébellion, ça peut l'être, mais c'est une résistance plutôt liée à une manière de voir les choses, à une manière de vivre, de considérer le cours des choses. Et le Seigneur dit, ce matin j'attire votre attention sur vos verrous intérieurs. Si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, dit-il, je peux vous le montrer, ou le remontrer, n'ayez crainte, parce que je veux vous bénir largement, mais je ne le fais jamais en forçant vos portes intérieures. N'oubliez pas ce qui est dit dans l'Apocalypse, je toque à la porte, et si quelqu'un m'ouvre, je rentre et je soupe avec lui. Et le Seigneur ne veut, est à la porte de certains, en quelque sorte, il toque, et dit, je veux rentrer, mais toi, est-ce que tu es prêt à ouvrir le verrou? Et je pense que le Seigneur veut nous révéler aux uns et aux autres quels sont nos verrous, que ce soit aujourd'hui, maintenant ou dans la semaine.
On veut pas. Je pense que Dieu parle et qu'on ne peut pas passer à côté de ce moment. C'est très important. Dieu est un gentleman, il ne forcera pas. Et Anita l'a bien dit, l'a redit. Et si cette parole a touché le cœur de quelqu'un, ne fermez pas votre cœur à Dieu. Mais ouvrez-la. On va demander à Anita si tu veux bien prier.
Seigneur, tu nous connais dans nos faiblesses. Tu nous connais dans nos résistances. Tu sais parfois quand on fait la mauvaise tête. Tu sais parfois quand on n'est pas d'accord avec toi, avec ta manière de voir les choses. Tu sais toutes les fois aussi où nous avons été blessés. Alors on a décidé de se protéger. Tu sais tout cela. Mais nous savons une chose, c'est que c'est toi qui as raison en tout point, c'est pas nous. C'est toi qui sais exactement ce dont nous avons besoin. Nous croyons que c'est toi qui as l'intelligence suprême, c'est pas nous. Seigneur, nous te prions, je te prie pour que tu nous éclaires les uns et les autres et conformément à ta parole et pour l'honneur de ton nom, je te prie pour que maintenant il y ait des ouvertures spirituelles. Je te prie pour que s'il y a des oppressions spirituelles, eh bien au nom de Jésus nous les chassons et nous interdisons aux malins d'agir de quelque façon que cela soit, de tenter qui que ce soit, car nous déclarons que ce moment-là est un moment pour le Seigneur et nous déclarons que maintenant les portes s'ouvrent, que les verrous sont ouverts, que rien ne vient empêcher l'ouverture des portes intérieures. Jésus, nous te remercions parce que c'est toi qui peux parler par ton esprit. Cher Saint-Esprit, merci pour ton action maintenant. Amen.
Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là.
Est-ce qu'on peut ensemble encore louer Dieu et dire vraiment merci Seigneur, ensemble, parce que nous sommes tranquilles dans la présence de Dieu. Nous sommes en sécurité dans la présence de Dieu. Seigneur, encore merci Père. Priez tous ensemble. Ensemble nous louons le Seigneur, nous remercions. Merci Père. Merci, c'est vrai, pour ta présence. Merci pour ta protection. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour de chaque jour. Merci parce que tu demeures fidèle, même quand nous, nous sommes infidèles. Merci, Seigneur, parce que tu veux le meilleur pour nous. Tu es celui qui veut encore nous restaurer, encore nous relever, encore nous faire du bien, encore nous parler, nous façonner à ton image. Merci, mon Dieu. À toi soit toute la gloire, Père éternel. Amen. Amen. Dieu est bon en tout temps. Amen. C'est tellement incroyable d'avoir un Dieu si grand, si puissant, qui s'intéresse à nous et qui nous aime. Je ne sais pas si vous, ça vous fait du bien, mais moi, ça me fait du bien en tout cas, de savoir qu'un Père céleste est toujours là à mes côtés. Amen. Merci. On peut les encourager, l'équipe de louanges. Merci pour ce temps. Merci. Parce que Dieu parle aussi au travers de la louange. Est-ce que vous le croyez? Ah, ça va. Alors, c'est bon. Le 12 octobre, c'est bientôt, ça arrive. Et il y a une journée spéciale à l'EPI, le 12 octobre, c'est les portes ouvertes de l'Église. Si vous ne connaissez pas encore l'Église, tous ses services, tout ce qui est fait chaque jour, chaque semaine, chaque dimanche, venez à cette journée. Et puis, si vous connaissez un voisin, des amis qui ne connaissent pas l'Église, ben, venez leur présenter. Les portes seront ouvertes pour les accueillir, pour leur présenter tout ce qu'on fait. On n'a rien à cacher. Hein ? Nous, on parle de la vie, de la joie. Donc, invitez-les à venir à cette journée le dimanche 12 octobre prochain. Messieurs, est-ce que vous êtes là ? Ok, il y a une date à retenir pour vous, le samedi 25 octobre. Samedi 25 octobre, retenez, il y a une journée spéciale pour vous, Ironman, avec le pasteur Christian Robichaud. Je pense que vous allez vous régaler, parce que chaque année, il y a des bons retours, donc venez nombreux, n'hésitez pas. Là aussi, je pense que vous pouvez inviter vos collègues, vos voisins, et je pense que les ados peuvent venir aussi, les ados gars peuvent venir, donc venez, si vous êtes intéressés, les jeunes aussi, allez-y. Vous allez vous faire du bien. Notez bien cette date, ne l'oubliez pas dans votre calendrier, c'est un temps pour vous. Et maintenant, je vais laisser la place à Mathieu.
Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Ok, c'est juste voir si vous êtes là ce matin. Très heureux d'être avec vous. J'ai une annonce importante pour les membres de l'Église, les membres administratifs de l'Église. Vous savez que l'Église est spirituelle, c'est des disciples de Jésus qui se rassemblent, qui exercent ensemble des services pour aimer Dieu, aimer leur prochain. Et on s'organise aussi pour administrer les biens de l'Église, pour qu'il y ait vraiment une bonne administration de notre vie en Église, des finances, de tout ce qui va être lié peut-être à l'immobilier, qui va être lié aussi à la manière d'investir dans des ministères, dégager des ministères à plein temps. Donc ça, c'est vraiment l'appel de toutes celles et ceux qui ont fait de l'Église de l'EPI leur église locale, aussi dans ce domaine de la bonne gestion, de la bonne administration des biens que l'on met en commun. Et nous vous annonçons donc une assemblée générale extraordinaire qui va avoir lieu le 16 novembre à 11h35. Une assemblée générale extraordinaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attend une mobilisation importante de la part de tous les membres de l'Église, à hauteur d'une représentation de 2/3. Il faut que 2/3 d'entre nous ne soyons présents. Et la décision qu'on prendra ensemble, elle doit dépasser les 60% pour pouvoir être actée. Et moi, j'aime ça parce que ça permet à l'Église vraiment de se mobiliser, de prendre en main la destinée aussi de la communauté. Donc, l'émargement démarrera à 9h30. Vous avez, pour vous tous, le pack de convocation, vous le connaissez maintenant, c'est un pack où dedans vous avez la convocation. Nous ici, comme on est une église assez conséquente, la convocation se fait par affichage. Donc toutes les affiches, toutes les packs de convocation, les procurations, j'en parle dans un instant, vous les avez au fond de cette salle, vous avez une table, vous avez tout ce qu'il faut pour rentrer un peu plus dans le détail. Nous avons travaillé ensemble avec le conseil d'église depuis plusieurs mois. On vous explique notre démarche en tant que conseil d'église pour vous proposer une prochaine embauche à temps plein ici à l'église de l'Épi. Voici, je vous lis la motion que nous allons décider ensemble dans la prière et puis aussi dans le vote. Ça concerne l'embauche d'une nouvelle assistante pastorale. On a dans nos statuts le devoir, en tant qu'assemblée générale, de pouvoir choisir ensemble ou pas, de rémunérer par des émoluments. On est dans un milieu cultuel, donc c'est pas des salaires qu'on paye à des pasteurs ou à des assistants pastoraux. Ce sont bien des émoluments, c'est des indemnités de culte. Et ça, c'est vous qui devez donner l'aval au CA pour pouvoir gérer ces aspects-là. Donc, nous avons fait tout un chemin ensemble avec le conseil d'église. Hein, tout est dans le pack, vous pourrez le lire à tête reposée tranquillement. Ou avec le départ de Jérôme et Anne Clémence, avec la reconnaissance en tant que pasteur local aussi de Anne qui a pris en envergure sur ce ministère-là, on a identifié depuis plusieurs mois des besoins pour voir comment est-ce qu'on peut continuer à bénir les leaders de l'Église, les responsables, bénir l'Église aussi dans les services, m'accompagner dans les charges en tant que pasteur principal aussi avec tout le projet immobilier, avec tout le projet aussi de transition quand on sera en travaux ici et puis qu'on devra se tourner vers des moyens extérieurs ou autres. Donc on a identifié tout ça avec le conseil d'église, on s'est rencontrés plusieurs fois, on a prié ensemble et on a rencontré la candidate qu'on voudrait vous présenter. Vous avez son histoire aussi et son parcours et sa présentation dans le pack. Il s'agit de Victoria Logel qui est pressentie par le conseil d'église pour être la nouvelle assistante pastorale ici à l'église de l'Épi. Donc je vous invite fortement à prendre connaissance de cela, on vous convoque très tôt pour que vous puissiez avoir le temps de pouvoir lire tout ça, vous poser. Il y a la possibilité de questions en amont de l'Assemblée Générale. Vous allez à l'espace vie d'église, tout de suite en sortant ici de cette salle à la droite. Vous avez des petits questionnaires, vous pouvez poser vos questions. Et il y aura aussi un temps de questions-réponses au micro, évidemment, en live. Donc n'hésitez pas à échanger, à pouvoir consulter ce pack qui est vraiment... voilà, vous avez toutes les infos là-dedans. Si vous ne pouviez pas être là le dimanche 16 novembre, ça arrive, on a des contraintes diverses et variées. Je vous rappelle que les procurations, c'est vraiment un moyen de pouvoir participer, faire entendre votre voix, même vos questions lors de l'Assemblée Générale. Donc vous en avez une, qui est dans ce pack convocation, la dernière page, c'est une procuration. Sinon, si vous en avez aussi à la table de ressources au fond de cette salle. Et comme ça, si vous n'êtes pas là, vous pouvez donner votre pouvoir à quelqu'un pour voter pour vous, voilà, en bonne conscience. Et puis voilà. Donc on va revenir vers vous. On convoque très tôt cette assemblée générale parce qu'on a besoin d'une forte mobilisation. L'embauche, si l'Église et les membres sont pour, démarrer à l'horizon de 2026, donc janvier 2026. Ok. Donc notez bien cette date dans votre agenda. Je vais prier pour cela maintenant et puis je laisse toute la place après à Anne pour présenter notre orateur, c'est important. Comme il y a des nouvelles personnes, tout le monde ne connaît pas le pasteur qui va prêcher ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ton église, cette rentrée. Merci pour toute la vie qu'il y a en ce moment partout dans le bâtiment, avec les 0-17 ans qui se rassemblent. Et on veut croire dans des rendez-vous divins. Là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là, Seigneur Jésus. Merci de bénir aussi l'Église et les perspectives, l'avenir qui est devant nous, Seigneur. Oui, les défis sont nombreux, les défis sont grands, mais encore une fois, nous le disons avec foi, avec patience, mais aussi avec persévérance, nous avons nous aussi un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Merci d'accompagner l'Église dans toute cette assemblée générale, Seigneur. Merci de nous accompagner dans la mobilisation, dans l'expression de notre décision ensemble. Merci de bénir toutes celles et ceux qui travaillent au conseil d'administration, conseil spirituel, équipe pastorale, tous les responsables de l'Église aussi qui ont à charge un service, un groupe, Seigneur. On veut vraiment te demander de nous permettre de continuer d'accomplir ta mission qui est d'aimer Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors accompagne-nous encore, Seigneur, et que cette année soit l'occasion de plein de rendez-vous divins, plein d'âmes sauvées, plein de personnes qui sont renouvelées, revitalisées dans leur foi. Et à toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Alors j'ai cet honneur de vous présenter une nouvelle recrue. Et nous sommes heureux de l'avoir avec nous. Nous le gardons tout près, toujours près de nous.
C'est Michel Schneider qui va nous apporter la parole aujourd'hui. On est tellement contents de l'avoir dans l'équipe pastorale encore, et on veut le garder. Hein. Vous êtes d'accord? Ok. Donc vraiment que le Seigneur te bénisse encore et encore, et à toi toute la place.
Merci. Merci beaucoup Anne, merci à tous, heureux de vous retrouver. Je viens de passer une semaine de jeûne et prière en Suisse, cette semaine qui avait été initiée par le pasteur Adolf Rutz, et je suis chargé de vous transmettre les salutations des Suisses, des Allemands, des Hollandais, des Autrichiens aussi qui étaient là. Donc toute une semaine pour vivre un temps fort autour de la parole de Dieu. La thématique, c'était Jean 15, « Je suis le cep et vous êtes les sarments, demeurez en moi et je demeurerai en vous ». C'était très très riche, avec une très grande faim, très grande soif de vivre une proximité plus grande avec le Seigneur. Certains sont en ligne d'ailleurs ce matin, je vous salue, d'autres prendront en cours de route. Eh bien, soyez salués, vous qui étiez au jeûne et prière en Suisse, que Dieu vous bénisse. On n'est pas bien là? Extraordinaire. La thématique de ce matin est assez particulière. Je l'ai intitulée « Judas, le maillon faible ». Judas, le maillon faible. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une prédication sur Judas, si vous avez eu l'occasion de lire quelque chose à propos de ce disciple, même de cet apôtre de Jésus. Mais c'est un personnage vraiment énigmatique, un caractère trouble. Et son nom évoque la trahison, l'hypocrisie, l'échec, la honte. D'ailleurs, je n'ai jamais rencontré une famille qui ait appelé son enfant Judas. Et pas même leur chien, d'ailleurs. Hein. Tellement c'est un nom qui évoque l'ambiguïté et la trahison. Et pourtant, Jésus l'a choisi pour être un apôtre. Et là, ça nous pose quand même quelques... Vous n'êtes jamais posé la question, mais qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe? Eh bien, ça va être très intéressant. Jésus l'a choisi comme collaborateur de son équipe. On va d'abord faire quelques lectures pour replacer les choses dans leur contexte. Luc au chapitre 6 et au verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. « À cette époque, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passe toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il appela aussi Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas, l'Iscariote, celui qui devint un traître. » Jean, chapitre 6, verset 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12, et l'un de vous est un diable ou un démon ?» Il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir, lui, l'un des 12. Alors le choix de Judas comme collaborateur va à l'encontre des principes du leadership. On a beaucoup travaillé les questions de leadership ici à l'EPI, le fait de travailler avec des responsables, le fait de travailler en équipe. Et en général, quand on veut former une équipe, on choisit des gens qui ont un même cœur, une même motivation, un même objectif, et des gens qui soient intègres. Difficile de former une équipe avec des gens qui ne croient pas en toi et qui ne soient pas d'accord avec toi. Et l'expression de maillon faible, on la doit à John Maxwell, qui est un expert en leadership, pour désigner quelqu'un qui fragilise une équipe. Quelqu'un qui casse la dynamique, qui diminue son efficacité. Et ce qui irrite parfois les autres, qui doivent l'aider, mais qui casse aussi l'atmosphère au sein de l'équipe. Et Jésus nous surprendra toujours. Jésus nous surprendra toujours. Parce que, en fin de compte, Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais il va qualifier les gens qu'il a appelés. Et ça, ça nous rassure. Ça nous rassure. Il a choisi les 12 apôtres pour les avoir avec lui et pour les former. Et alors ce matin, je vous invite non pas à faire le procès de Judas, parce que si on se regarde d'un petit peu plus près et si on est assez honnête avec soi-même, il y a des choses qu'il va falloir creuser. Et j'aimerais orienter notre message de ce matin vers certains blocages. Ça vous dit quelque chose ? On l'a entendu tout à l'heure. Il y a des blocages intérieurs qui nécessitent qu'on y travaille. Alors, on n'est pas là pour faire son procès, mais on est là pour apprendre tous ensemble. L'Église est un lieu d'apprentissage. Et on ouvre la parole pour apprendre à être davantage semblable à Jésus. On est d'accord jusque-là ? Bien. Alors, première chose, c'est que ce qui caractérise Judas, c'est qu'il n'a pas voulu changer. Il n'a pas voulu changer. Judas l'Iscariote, si on traduit Judas l'Iscariote, c'est l'homme de Cariote. C'est peut-être le nom d'une ville qu'on n'a pas vraiment pu identifier. Et à cette époque-là, les gens n'avaient pas de nom de famille. Judas, fils de Simon, comme Jacques, fils de Zébédée, ou Pierre, fils de Simon. Jésus savait, depuis le début, qui était le traître des 12, parmi les 12. Judas a commencé comme un diable, comme un démon, et il a fini comme un diable. Il n'a pas voulu changer. Il a passé 3 ans dans la proximité de Jésus. Il a marché à ses côtés, il a mangé avec lui, il a prêché l'évangile comme les autres apôtres, il a guéri les malades, il a chassé les démons, les pains et les poissons se sont multipliés entre ses mains. Il a vu de ses propres yeux les aveugles retrouver la vue, les paralysés s'en aller en marchant. Il était dans le bateau quand Jésus a calmé la tempête et à la résurrection de Lazare, Judas était là. Il a vu et expérimenté de manière très proche tout cela. Comme quoi, on peut se trouver dans la présence de Jésus, on peut être au contact de l'évangile, on peut même s'associer à d'autres chrétiens sans se remettre en question et sans changer vraiment de vie. Nous voulons ce matin permettre à Dieu de changer quelque chose dans nos vies. Certainement, l'un des défis les plus importants, c'est de permettre à Dieu de nous transformer. Parce que l'évangile, ce n'est pas une question d'amélioration de notre personne, ce n'est pas une question d'adhésion. Ce n'est même pas une question d'information, mais c'est une question de transformation. Jésus veut transformer notre vie. 2 Corinthiens, chapitre 5, et au verset 17, nous dit ceci. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Littéralement, une nouvelle création. « Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et lorsqu'on va un peu plus loin dans le Nouveau Testament, Romains au chapitre 12, verset 2, le texte nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Le mot ici « transformé », c'est le mot « métamorphosté », c'est-à-dire « métamorphosé ». Et devenir chrétien, c'est une véritable métamorphose. Vous pensez au papillon qui est d'abord une chenille et qui se transforme en papillon. C'est une métamorphose. La transformation, elle vient de l'intérieur et c'est nous qui donnons accès au Seigneur pour lui permettre de nous changer, de nous transformer. Et la foi chrétienne véritable génère une transformation, un changement de vie. C'est un processus de transformation intérieure dont la finalité est de ressembler à Jésus. Ça va jusque-là ? C'est ça, la foi chrétienne. Elle génère une transformation intérieure. et fais de nous un meilleur homme, une meilleure femme, un meilleur mari, meilleure épouse, un meilleur voisin, un meilleur collègue, un meilleur citoyen. Judas n'a pas voulu changer. Deuxième caractéristique, quand je recherche, ça fait quelques semaines que je recherche quels sont ses traits de caractère. Deuxième aspect, c'est qu'il avait une fausse compréhension de la mission de Jésus. Une fausse compréhension de ce pourquoi Jésus était venu faire, ce que Jésus était venu faire. Beaucoup de commentateurs bibliques s'accordent à dire que Judas n'a pas mesuré l'impact que pouvait avoir sa trahison. Il ne s'attendait pas à ce que Jésus soit condamné à mort et soit crucifié. Il pensait qu'en provoquant son arrestation par les Romains, il hâterait le royaume de Dieu par une révolution. Ce qui caractérise la personne de Judas, c'est ça, c'est la révolution. Là, on est en pleine actualité. Certains chercheurs pensent que Judas faisait partie de ce qu'on appelle les sicaires. Un sicaire, c'est une espèce de petit poignard qu'on avait là à la ceinture. Et celui qui était parmi les sicaires, à chaque fois que dans la rue, il croisait un Romain, il regardait à gauche, à droite et pointait le poignard là où il fallait pour tuer le Romain en question. Leur but, c'était de faire sortir les Romains du territoire par une révolution. Les sicaires, c'est un groupe d'opposants au régime romain. Alors Judas n'était pas le seul à vouloir chasser les Romains du pays. Hein. Les disciples d'Emmaüs, par exemple, dans Luc 24, verset 21, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Donc, ils étaient quelques-uns à voir quand même cette idéologie révolutionnaire pour tâcher de mettre les Romains hors du pays. Et ils s'appuyaient sur Jésus pour le faire. Mais pourtant, Jésus avait été clair. Jean 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus n'est pas venu pour faire de la politique. Quand la foule a voulu faire de lui le roi, il s'est sauvé. Marc 12, verset 17, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'a pas confondu le royaume de Dieu avec le pouvoir politique. Maintenant, ce qu'il faut quand même dire pour rester équilibré, c'est que, comme nous sommes appelés à être sel de la terre, lumière du monde, Dieu confie parfois un appel particulier pour quelqu'un à s'engager en politique. Il y a des élus, j'ai parmi mes amis quelques élus locaux et même des élus régionaux qui sont impliqués dans la politique et qui font un excellent travail, qui sont très appréciés, mais c'est leur vocation. Ça peut arriver. Ils sont courageux et appréciés. Maintenant, revenons au royaume de Dieu. Dans Romains 14 au verset 17, pour bien clarifier la chose, Romains 14 au verset 17 dira, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, ce n'est pas les choses terrestres, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. La politique a tendance à nous diviser. Parce que chacun compte sur ses opinions. Et l'apôtre Paul dira, ne discutez pas des opinions. Ajoutez un peu d'ego, un peu d'orgueil, un peu d'idéologie, et vous avez la révolution. Mais le chrétien, lui, il est un ambassadeur de Christ. Et il est également un artisan de paix. Romains 12 au verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Au verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et puis 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. En discutant avec Mathieu il y a quelques jours, il me disait, moi je ne veux pas me laisser aigrir par les informations et par le climat ambiant. Je ne veux pas me laisser aigrir. Et lorsqu'on est au contact de l'actualité, on aurait plutôt tendance à se laisser aigrir. Mais que Dieu nous garde dans la paix et fasse de chacun d'entre nous des instruments de paix, des, bâtir des ponts et rester en relation avec tous. Judas s'est enfermé dans son idéologie révolutionnaire. Sur fond de haine des Romains, et là, ça nous parle aujourd'hui. Il n'a donc pas voulu changer, et puis il avait une fausse compréhension de la mission de Jésus. La troisième caractéristique qu'on peut discerner chez lui, c'est qu'il était animé d'une mentalité de voleur. Jean 12 au verset 3. Jean 12 au verset 3. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, et versa sur les pieds de Jésus, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent ?» C'est à peu près un an de salaire moyen. « Pour les donner aux pauvres. » Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Un trésorier qui pique dans la caisse. Moi, je remercie Mathieu pour sa transparence. Ce qu'il nous a dit tout à l'heure concernant l'Assemblée Générale Extraordinaire, c'est un souci de transparence avec l'Église. Et là, je veux lui rendre hommage. Il fait tout pour que l'Église soit informée, soit au courant de toutes les décisions. Et donc, merci pour ta transparence, Mathieu. Et ici, ce n'est pas le cas. Judas est tout à fait un contre-exemple. Moi, je ne sais pas comment il est devenu trésorier de l'équipe. Est-ce que Jésus l'a désigné? Est-ce que ce sont les autres qui l'ont désigné? Est-ce qu'il s'est proposé? On ne sait pas vraiment. Toujours est-il qu'il est trésorier de l'équipe. Cher Freddy, si tu avais fait ça... Freddy, c'était notre trésorier pendant 37 ans. Et quelle intégrité, quel homme droit. Chaque centime était calculé, je suis témoin. Il passait des après-midi entières sur la comptabilité de l'Église. Merci Freddy, et merci à celles et ceux qui ont pris la suite et le relais. C'est très difficile de prendre le relais à la trésorerie derrière un homme comme Freddy. Merci pour ton intégrité, Freddy. Mais il y a ici un message fort, frères et sœurs. Judas a bénéficié d'un niveau de confiance élevé. Élevé. Il ne pourra jamais reprocher à Jésus de ne pas lui avoir fait confiance. Jésus lui a donné sa chance, il lui a donné sa place dans l'équipe et il lui a donné une position importante. Mais quand Judas a vu que Marie cassait le vase pour répandre le parfum qui valait un an de salaire, Judas était hors de lui. Pour lui, c'est un gâchis. Il est scandalisé. Mais pour Marie, c'est un moment d'adoration. Elle répand son cœur. Le texte nous dit que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'est un acte d'une grande générosité à l'égard de Jésus. Et le Seigneur va donner sa vie, en tout cas c'est ce qu'elle sait, c'est ce qu'elle comprend, il va payer le prix fort. Elle dit, moi aussi, je veux contribuer, je veux tout lui donner, je ne veux pas m'économiser. Judas, lui, il est dans le calcul et son langage le trahit. On aurait pu garder ce parfum. Alors il trouve une excuse, on peut donner l'argent aux pauvres. Et le texte précise bien qu'en réalité c'est une excuse, parce qu'il voulait vendre le parfum et garder l'argent. Garder. Ne pas donner à Dieu ce à quoi il a droit, c'est le voler. Dans l'Ancien Testament, déjà, les prophètes reprochaient au peuple de garder et de ne pas honorer le Seigneur avec leurs biens. Mon formateur, qui s'appelait Daniel Hébert, un des anciens pasteurs de l'Épi, de 75 à 89, disait, quand on parlait du fait de donner, disait ceci: la question ce n'est pas combien, ce n'est pas qu'est-ce que je donne, la question est qu'est-ce que je garde. Qu'est-ce que je garde? Y a-t-il peut-être ce matin quelque chose que tu retiens? Quelque chose, ce n'est pas forcément matériel ou financier, hein, attention, mais qu'est-ce que tu gardes? Y a-t-il quelque chose que tu retiens? Peut-être ta disponibilité, des compétences, le temps, un savoir-faire, peu importe. Ne serait-ce pas le moment de redire à Dieu: Seigneur, tout ce que j'ai est à toi. Ma famille, mes amis, mes affaires, mon travail, mon corps, mon avenir, mes biens. Seigneur, tout est à toi. Et tout à l'heure, je vous engagerai dans cette prière à dire: Seigneur, j'ai besoin d'entendre cela encore ce matin. Merci à Anita pour sa disponibilité et sa sensibilité et de nous avoir rendu attentifs sur des blocages intérieurs qui sont là et qui nécessitent qu'on y travaille. Lorsqu'on a eu nos enfants successifs, lorsqu'ils étaient bébés, j'ai surpris assez souvent mon épouse Evelyne dans le salon, en train d'allaiter les bébés, et pendant qu'elle allaitait, elle fredonnait ce vieux cantique: oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Une façon de dire: Seigneur, voilà, les enfants que tu me donnes, que tu nous donnes, on veut te les remettre. On pense à toi, c'est toi qui nous les as confiés, bien, on veut te les redonner. Prends tout, Seigneur. Prends ma vie, prends ma famille, prends tout. Et lorsque je regarde en arrière pour voir ce que sont devenus nos enfants, nous sommes fiers avec Evelyne de nous être investis et d'avoir fait en partie, d'avoir contribué à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Alors c'est vrai que les temps n'ont pas toujours été faciles quand vous avez 4 enfants qui font des études, qui sont un petit peu dispersés, qu'il faut payer les collages, qu'il faut payer des chambres, etc. C'est pas évident. Mais aujourd'hui, je veux rendre honneur au Seigneur et lui dire que nous n'avons jamais manqué de rien. Et je vous encourage à livrer votre... D'ailleurs, la meilleure joie, la joie la plus complète, c'est lorsque vous donnez tout au Seigneur. Vous ne pouvez pas être vraiment heureux si vous gardez les choses pour vous. Ce n'est pas possible. Le Seigneur, on l'a entendu aussi tout à l'heure, ne forcera pas la porte. Il attend. Il a beaucoup de patience et de la persévérance. Mais à un moment ou un autre, il faut prendre une décision. Seigneur, voilà, tout est à toi. Dans le royaume de Dieu, celui qui garde s'appauvrit. C'est ce que dit Proverbe 11, 24. Mais celui qui donne s'enrichit. Alors, encore une fois, pas forcément matériellement ou financièrement, mais en tout cas, devant Dieu, nous ne manquerons jamais de rien. Premièrement, Judas n'a pas voulu changer. Au début, c'est un diable, un démon. Et à la fin, Satan en personne est entré en lui. Deuxièmement, il a une fausse compréhension de la mission de Jésus. Jésus est venu pour nous sauver du péché et pas pour chasser les Romains. Et puis troisièmement, il a une mentalité de voleur, un esprit de calcul, il n'a pas d'esprit de générosité, ce qui ne correspond pas à ce que Dieu attend de nous. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, et il nous a donné l'exemple, il a donné ce qu'il avait de plus cher et de plus précieux, son Fils unique, Jésus. Quatrième chose que je discerne chez Judas, c'est son hypocrisie. C'est un hypocrite. Vous connaissez peut-être l'origine du mot hypocrite, hein, chez les Grecs. C'est un personnage, c'est un comédien, c'est quelqu'un qui a deux visages. Les textes bibliques parlent de cœur double, en tout cas quelqu'un qui n'est pas droit. Dans le vocabulaire de théologie biblique, Xavier Léon Dufour dit des hypocrites qu'ils sont ceux dont les conduites n'expriment pas les pensées du cœur. Plus qu'un manque de sincérité, c'est un manque de loyauté et de droiture. Judas a bien caché son jeu. Mais on finit toujours par tomber du côté vers lequel on se penche. Ce qui est frappant, c'est que Jésus savait depuis le début que Judas le trahirait. Depuis le début, le texte nous le dit. Et pendant 3 ans, il n'a rien dit aux autres disciples. À aucun moment, il a fait savoir qui le trahirait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au moment du dernier repas, à l'institution de la Sainte-Cène, dans cette chambre où ils sont isolés avant que Jésus ne souffre, ce dernier repas, tous les apôtres disent « Est-ce moi Seigneur? Est-ce moi Seigneur? Est-ce moi Seigneur ?» Ils ne savaient pas qui allait le trahir. Mais en même temps, on a l'impression que chacun d'eux était en mesure de pouvoir le trahir. La preuve, Pierre, dans cette même nuit, l'a renié à 3 reprises. Moi, je trouve que Jésus est admirable dans son attitude à l'égard de Judas. À aucun moment, il n'a voulu le mettre en difficulté devant les autres. Et je crois que ça aussi, c'est une marque du Saint-Esprit. Il met une petite pression et la conviction. Il sait que on doit changer, on doit évoluer, on doit progresser. Et il nous travaille, mais il ne fera pas le travail à notre place. Il ne nous mettra pas en difficulté devant les autres. Quel respect, quelle prévenance, quelle patience. C'est une masterclass, c'est-à-dire une leçon de leadership sur comment gérer un maillon faible dans une équipe. John Maxwell, donc cet expert en leadership, c'est un pasteur aussi, écrit ceci, quand il a beaucoup travaillé sur les questions de travailler en équipe, il écrit « Quand le leader ne résout pas les problèmes causés par les pires collaborateurs de son équipe, il perd le respect des meilleurs. » Jésus n'a jamais été pris en défaut, il n'a jamais fait d'erreur, il ne s'est pas trompé en choisissant Judas. Mais il a été un excellent meneur d'hommes, un excellent leader. Il dira d'ailleurs dans Jean 17, qui est cette dernière prière, on appelle cela la prière sacerdotale, la prière du prêtre, la prière finale, Jean 17, 12, il dira « Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Alors c'est Judas qui va prendre l'initiative de la trahison. C'est lui. Il a négocié avec les religieux le prix de son arrestation, 30 pièces d'argent. C'est ce qui avait été mentionné déjà dans l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 11. Même le prix de son arrestation était prophétisé des siècles auparavant. Matthieu 26 décrit la scène de l'arrestation dans le jardin de Gethsémané. Et Judas, qui connaît bien d'ailleurs les lieux, pour y avoir été plusieurs fois avec les autres collègues et avec Jésus, connaissait donc bien l'endroit. Et il précède une foule armée de bâtons, armée d'épées, pour venir arrêter Jésus. Et il dit « Salut, maître ». Et Judas avait prévenu les autorités, et notamment les Romains qui devaient arrêter Jésus, « C'est celui à qui je donnerai un baiser que vous devez saisir. Luc 22, 48, Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Je pense qu'on a tous été trahis un jour ou l'autre. On sait ce que c'est. Mais être trahi par un baiser, c'est le comble de l'hypocrisie. Le verbe ici, kataphileo, utilisé, c'est embrasser avec ferveur, avec affection, comme le père qui accueille le fils prodigue et qui l'a embrassé. Mais ce baiser-là, sur la joue, il avait le goût de l'enfer. La saveur de la trahison, c'était le baiser de la mort. Puis on lit tout cela et on se dit, mais comment est-ce possible? Comment est-il possible de passer 3 ans aux côtés de Jésus et de faire ce qu'il a fait? Comment c'est possible d'être tellement méchant? Bien, Satan a trouvé le maillon faible de l'équipe, c'était Judas, et le point faible de Judas. C'est comme s'il lui disait, ah Judas, tu veux la révolution? Moi, je vais te la donner, la révolution. Alors Satan l'a manipulé jusqu'à prendre le contrôle sur sa vie. Satan est entré en lui, ça c'est terrible. Et il y a pour nous ici comme un avertissement, c'est que si on ne change pas, ça ne s'améliorera pas avec le temps, mais ça va devenir pire. Si on ne change pas, il y en a un qui est prêt à se servir de nos fragilités pour nous pousser dans le sens des fragilités. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure, on finit toujours par tomber du côté vers lequel on se penche. Et les apôtres sont choqués. Et lorsque Marc écrit cette histoire, on sent, ils sont comme en état de sidération. Vous savez, vous n'avez plus aucune réaction. Vous ne pouvez plus réagir tellement vous êtes sidérés. Et quand Marc écrit, il dit... L'un des douze, il est sous le choc. Et Pierre prend la parole dans Actes, au chapitre 1er, au verset 17, il dira, il était l'un des nôtres, il avait part au même ministère. Actes 1, verset 25, ce ministère et cette charge d'apôtre, il les a abandonnés pour aller à la place qui est la sienne. Alors encore une fois, est-ce que Jésus s'est trompé en choisissant Judas? Non, parce que Jésus n'a jamais fait d'erreur et ne fait pas d'erreur. Il a prié toute une nuit pour avoir les instructions de son Père. Mais pourquoi l'avoir choisi? Et Pierre va prendre le temps de l'expliquer aux 120. Disciples réunis ce jour-là pour la prière. Acte 1, verset 16. « Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture. » C'est ça l'explication. « Il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. » Et cette parole prophétique se trouve dans Psaume 41, verset 10, « Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. » A levé le talon contre moi. Est-ce qu'il était forcé de trahir Jésus? Bien sûr que non. Judas n'a pas agi de manière mécanique, hein, comme un robot, comme une machine. T'es pleinement responsable de ses actes. Mais alors, comment se fait-il que la trahison ait été prophétisée? La réponse est que Dieu est omniscient. Dieu sait tout. La réponse est que Dieu est en dehors de notre... Nous sommes dans une dimension de l'espace et du temps, mais Dieu est complètement en dehors du temps. Le temps existe seulement pour nous. Mais pas pour Dieu. Dieu se trouve dans l'éternité et il sait tout du début jusqu'à la fin. Vous avez le psaume 139 qui est tellement remarquable, où le texte dit au travers de David, « Avant que nos jours soient existent, déjà ils étaient tous inscrits dans ton livre. » Dieu ne vit pas dans la même dimension que nous, et Dieu savait d'avance ce que Judas allait faire. Mais quand Judas a réalisé le mal qu'il a fait, quand il comprend que l'arrestation de Jésus signe sa condamnation à mort et la crucifixion, il est envahi de culpabilité, de condamnation, de remords, de regrets et même de désespoir. Et dans Matthieu 27, il dira, verset 4, « J'ai péché en faisant arrêter un innocent. » Il est revenu vers les religieux, il a jeté l'argent par terre, il a confessé aussi son péché devant les religieux, mais malheureusement devant les mauvaises personnes. Si comme Pierre, il était revenu vers Jésus, et là on est dans le temps, si comme Pierre il était revenu dans la repentance en disant « Pardonne-moi Seigneur, je me suis fourvoyé, je me suis trompé, j'ai péché contre toi, je me suis braqué dans mes opinions, pardon. » Ne croyez-vous pas que Jésus lui aurait pardonné? Ben oui. Mais c'est dramatique. Le diable a dû lui souffler. Maintenant c'est trop tard. C'est fini pour toi. Va te pendre. Puisque le diable était entré en lui. Et c'est ce qu'il nous insuffle parfois. C'est fini. C'est trop tard. T'as tout raté, t'as tout perdu. Et nous avons de temps en temps des appels d'urgence de ce genre-là. Pas plus tard que cette semaine, quelqu'un était envahi par des pensées suicidaires. C'est des attaques diaboliques qui peuvent arriver. Mais la réalité, c'est que tout n'est pas perdu, tout n'est pas fini. Avec Jésus, il y a de l'espérance, et c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ce matin pour dire, ou pour renouveler, pour dire oui Seigneur, prends tout, prends ma vie. Et alors, son remplacement, dernier point ici, c'est que dans Acte 1, qui nous raconte que les 11 apôtres se sont retrouvés dans la chambre haute à Jérusalem, la réunion de prière se transforme en réunion de conseil pour trouver un successeur à Judas. Et comme il connaissait la Bible et l'Ancien Testament en particulier, puisque ce n'est que cela dont il disposait à ce moment-là, il s'appuie sur un texte prophétique, psaume 109, verset 8, qu'un autre prenne sa charge pour choisir le successeur. Et le choix se porte sur Matthias. Et là aussi, il y a une leçon pour chacun d'entre nous. Si tu ne termines pas ta tâche, quelqu'un d'autre le fera. Si tu abandonnes ton poste, Dieu choisira quelqu'un d'autre pour terminer le travail. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas besoin de moi. Moi, j'ai besoin de lui. C'est ça la vérité. Moi, j'ai besoin de lui. Alors, on va terminer. J'invite l'équipe à revenir pour s'installer sur l'estrade, terminer par un appel et par une prière. Judas n'a pas voulu changer. Y a-t-il un point de blocage, de résistance? Ne serait-ce pas le moment de capituler devant le Seigneur et d'arrêter de lui résister, de lui permettre de changer ta vie? La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Par rapport à la fausse compréhension de la mission de Jésus, tu peux choisir de suivre, de continuer à suivre tes idées, tes opinions, ton idéologie, mais tu peux aussi changer de route, sortir de ton enfermement. Par rapport à la mentalité de voleur, la question c'est qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je garde? La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et la meilleure manière d'être délivré d'une mentalité de voleur, c'est de commencer à donner. C'est pratico-pratique. Oui, prends tout Seigneur. Et puis par rapport à l'hypocrisie, est-ce que ce ne serait pas le moment de baisser ton masque, d'être vrai, d'être loyal, intègre, d'être droit devant Dieu et devant les hommes? Ce n'est pas le moment de dire oui, jusqu'au bout, je veux te suivre. Moi, ce qui m'a gardé dans ma vie, un moment de cœur à cœur, c'est l'antidote à la trahison, c'est la fidélité. Et je suis luthérien d'origine, donc entre 12 et 14 ans, j'ai fait le catéchisme de Martin Luther. Et dans les années 60, ces deux années de catéchisme, et les étudiants en théologie vous le diront aujourd'hui, correspondaient à peu près à la première année de théologie en fac de théo protestante. Et après ces deux années de catéchisme qui vous donnaient une base solide pour la vie, il y avait la confirmation. Et au moment de la confirmation, le pasteur nous donnait un verset biblique. Mon pasteur, c'était Christophe Hemlinger. Il habite à Célestat aujourd'hui. Christophe, si tu m'entends, il a 101 ans. Il a été un bon pasteur, baptisé de l'Esprit, converti, et qui nous a encouragés à suivre Jésus. Et il m'a donné ce verset, Apocalypse, chapitre 2, verset 10. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Et quand il y a eu des moments un peu difficiles, douloureux, je me suis accroché à ce verset, « Sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. » Et merci Christophe de m'avoir donné ce verset. Merci de prier pour moi, merci d'avoir prié pour moi. Alors c'est un verset pour la vie. Peut-être que vous aussi, vous avez besoin d'un verset pour la vie. Ça peut être un verset. Mais le Seigneur est fidèle. On va prier ensemble. Seigneur, tu vois ce message ce matin que tu mets sur mon cœur. Je voudrais le mettre sur le cœur de chacun d'entre nous. Te demander vraiment d'intervenir pour chacun. Merci parce que tu es celui qui peut nous aider à changer. Par ton esprit, par tes douces pressions, par ton amitié, tu es là non pas pour nous détruire, mais pour construire dans nos vies. Merci. Merci de nous aider à avoir la juste compréhension de ce que c'est qu'un chrétien, de ce que c'est que de te suivre. Merci de nous garder d'une mentalité de voleur. Garde-nous de retenir pour nous-mêmes. Et Seigneur, aide-nous à sortir de l'hypocrisie si telle était notre situation. Et peut-être que ça peut aider quelqu'un de se lever à sa place ce matin. Je ne veux pas faire de pression, d'appel, ni manipuler, mais chacun d'entre nous nous sentons bien dans quel domaine le Seigneur nous interpelle. Si cela peut t'aider, tu peux simplement te lever à ta place et je vais prier pour toi. Merci Seigneur, tu es fidèle, tu honores ta parole, tu touches nos vies, tu touches nos cœurs. Merci, merci, merci pour votre sensibilité, merci d'être réactif à la parole, c'est tellement important. Plus vite nous mettrons en pratique et plus vite nous allons évoluer, progresser, changer et grandir à la ressemblance de Christ. Merci Seigneur de toucher mes frères et sœurs, mes amis. Merci de recevoir, merci de les accueillir. Merci de faire ton œuvre dans leur vie, dans leur cœur. Certains sont là pour la première fois, ils donnent leur vie à Jésus, ils veulent se convertir. Eh bien, faites cela. Le Seigneur est là pour vous accueillir. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il veut vous transmettre une vie nouvelle et changer toute votre destinée. Merci Seigneur de ton œuvre ce matin parmi nous. Et merci de nous accorder d'être fidèles jusqu'au bout et de ne pas ressembler à Judas, qui est pour nous un contre-exemple, mais qui est tellement parlant. Merci de faire de nous des hommes et des femmes fidèles jusqu'au bout. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Merci beaucoup.
Habite-moi, sous tes ailes. lancé en ce déchet, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là.
Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains j'abandonne tout avec moi. Oui, prends tout, Seigneur.
Oui, prends tout, Seigneur.
En croyance qu'on chante avec force.
Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains,
entre tes mains, j'abandonne.